Le festival cinématographique d'automne de Gardanne, 24e édition, se déroulera du 26 octobre au 6 novembre 2012 au cinéma 3 Casinos de Gardanne. Sur la grenouille, une émission spéciale consacrée à ce festival, avec Régine Join, directrice du festival, et les réalisateurs Xavier Dolan pour son film Lawrence Anyways, Geoffrey Endoven pour son film Hasta la Vista, et Jung pour son film Couleur de peau, miel. Trois films qui, à leur façon, traitent de la question du rapport de la société à la différence. Pour commencer cette émission, Régine Join, directrice du festival cinématographique d'automne de Gardanne, nous dit quelques mots de la programmation de cette 24e édition, à commencer par le film d'ouverture, Amour, de Michael Haneke, palme d'or du dernier festival de Cannes. Régine Join.
C'est vrai que la première fois, on a fait ça avec le Ruban Blanc, qui avait eu aussi la Palme d'Or, et qui se trouve sortait en même temps que l'ouverture de notre festival. Donc, en général, c'est plutôt des avant-premières qu'on a. Mais comme à chaque fois, j'aime ces films, et qu'en plus, ils ont la Palme d'Or, et que j'ai été absolument saisie par ce film. Alors, est-ce que ça va devenir une habitude? On verra. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
L'affiche du festival, cette année, par contre, n'est pas une photo tirée du film Amour, mais du film d'Atik Rami.
Oui, voilà. Oui, c'est une des photos de ce film d'Atik Rami, donc cet écrivain prix Goncourt 2008, qui avait donc fait ce roman qui s'appelait Pierre de Patience, et qu'il réalise lui-même, et qui sort au mois de mars-avril, je crois, 2013. Et effectivement, oui. Mais ça arrive souvent hein, qu'on ne fasse pas obligatoirement l'ouverture. Au contraire, en fait, le film d'Atik Rahimi passe plutôt vers la fin du festival et l'affiche nous accompagne. Mais qu'est-ce que c'est ce film? D'où ça vient? Voilà. Et elle nous accompagne presque jusqu'à la fin.
Il y a une soixantaine de films qui vont être projetés pendant ces 12 jours du Festival cinématographique d'automne de Gardanne qui viennent de 30 pays. Ça fait combien de projections par film ça, sur les 12 jours?
C'est assez combien de projections par film? C'est inégal, puisque nous avons des avant-premières qui ne passent qu'une fois. Certains films de Cassavetes durant 2h30 ou certains films de Xavier Dolan durant 2h40, donc aussi que des projections uniques. C'est très compliqué. Donc, c'est inégal, mais j'essaye de faire quand même qu'il soit visible 2-3 fois. Par exemple, Amour commence avec nous et finit avec nous sur 15 jours. Hein, je le garde, puisque voilà, c'est la sortie nationale. En même temps, c'est une envie de le montrer beaucoup, beaucoup, qu'il soit beaucoup vu. Et c'est aussi une des conditions pour l'avoir.
Alors, ils sont visibles dans les salles du cinéma 3 Casinos de Gardanne, où se déroule ce festival, des salles qui, 2 sur 3, sont équipées en numérique maintenant.
Voilà, oui, bah oui, voilà. Tout arrive. Oui, au milieu de l'été, là, sous 45 degrés de chaleur, nous avons fait passer deux salles, effectivement, en numérique. J'en ai gardé une en 35, elle va passer en décembre, puisque maintenant, c'est comme ça. C'est vrai que l'image est très, très belle, et c'est vrai que c'est devenu une obligation, quoi. Hein, voilà, donc toutes les salles y passent, si je puis dire. C'est un plus, quand même, qualitativement. Et donc, ce que j'espère, c'est que ça se ressentira, quoi, hein, dans le bien-être des cinéphiles. Et comme ça, à l'occasion de ça, c'est vrai qu'il y a des films qui ressortent, comme les Cassavetes, justement, dans des nouveaux masters, avec un nouveau master numérique. Et c'est vrai que l'image est absolument magnifique.
Que deviennent les projecteurs 35 mm et les copies 35 mm
Les copies, je pense qu'il en sort de moins en moins. Hein. De moins en moins, donc dans les récents, il en sort très très peu. Puisque pratiquement plus de salles n'ont ça. Pour les anciennes, je ne sais pas, elles finiront par être au pilon, j'imagine. Hein. Quant au matériel, eh ben, il ne sert plus à rien non plus.
Pilon aussi.
Hein. Et voilà, nous en tout cas, c'est un ferrailleur qui est venu. C'est très étrange, c'est le monde marchand, c'est l'avancement. Moi, j'avoue qu'on n'est pas passé dans les premiers, parce qu'il y a 4 ans hein, que la transition numérique se fait. Là. J'ai attendu, d'abord il fallait voir l'argent, c'est très très cher. Donc voilà, oui, tout disparaît. Ça disparaît et je pense que les 35 vont disparaître. Des salles le gardent en double. Moi j'avoue que non, sur la troisième salle, quand ça va passer en numérique, il n'y aura plus de 35 du tout dans le cinéma. On n'a pas de place. Voilà.
Pas moins de 18 avant-premières, j'ai compté ça dans cette 24e édition.
Ben ça alors, moi, j'aurais été sûre qu'il y en avait 19. Hein.
18 en compétition et une hors compétition.
La clôture, effectivement, est une avant-première et elle est hors compétition, effectivement. Oui, oui. Oui, cette année, il y en a beaucoup. Bon, ça s'explique que, comme je le dis toujours, je fais un peu la programmation au coup de cœur. Et en plus, ben, au bout de la 24e année, on finit par être un lieu où les distributeurs ont envie de sortir, de montrer leurs films. Donc, non seulement il y a les films que j'avais vus avant, et puis il y a tous ceux pour lesquels on m'a bombardé de DVD, de DCP, et qui m'ont séduite, quoi. Donc, voilà. Donc, ça fait beaucoup, effectivement. Mais c'est bien, c'est une évolution comme une autre. Hein.
Les films présents au Festival cinématographique d'automne de Gardanne, c'est quand même pas mal un écho du Festival de Cannes, en fait.
Effectivement, Cannes étant un moment où on montre les films pour les 6 prochains mois, comme nous, on sort en octobre que je présente des films sur les 3-4 mois à venir. Certains films en sont issus, mais ce n'est pas trop une volonté d'être l'écho de Cannes. C'est juste que Cannes est un grand marché où on présente tous les films. Il y a un nombre de films incalculable, donc effectivement, au milieu, il y en a. Mais si je regarde, Attic Raimi n'y était pas, Foxfire n'y était pas. Au-delà des collines, oui, c'était un film qui a été primé à Cannes.
Laurence Anyway, Despias de Lucha.
Voilà, oui, ben, là, ça, oui, d'accord, pas dans les avant-premières. Oui, bien sûr. Ah, oui. Et oui, puisque c'est pareil, hein, ils présentent des films qui sortent après. Donc, oui.
Disons un mot de Foxfire, le nouveau film de Laurent Canté, Palme d'Or du Festival de Cannes avec Entre les Murs, il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Laurent Canté va accompagner la projection de ce film en avant-première à Gardanne.
Oui, il vient nous voir là, tout de suite, le samedi 27. Voilà, j'étais ravie, on l'avait déjà invité. Entre-temps, il y a eu Entre les Murs. Voilà, oui, il vient présenter son film, c'est un grand honneur, un grand bonheur, une envie de partager. Il pouvait le faire, il n'a pas trop hésité. Il fait une petite circulation sur la région.
Et tu as vu son film ?
Non, je n'ai pas vu son film. On doit m'envoyer un DCP. Je l'ai programmé, on va dire, les yeux fermés. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les autres invités qui vont venir ?
On a Clara Bouffartigue, qui est une jeune réalisatrice qui avait déjà fait un film qui s'appelait Quelques-uns d'entre nous. C'était en fait un DVD, là aussi, qu'elle m'avait envoyé en 2006. Et je l'avais vu, et je l'avais trouvé très beau. Il n'est jamais sorti, ce film. Il n'a jamais été distribué. Je crois qu'il a dû passer dans 2-3 lieux, dont le cinéma, dont le festival. Et on a gardé toujours ce lien. Et j'ai découvert ce film qui est, en fait, sur ce sujet qu'on voit souvent traité au cinéma, mais pas de cette manière, sur la vie dans un collège, avec des points forts sur deux femmes profs. Et comment elles font, avec beaucoup d'humour, beaucoup de patience, beaucoup de dévouement, beaucoup d'amour de leur métier et de ces jeunes, qui sont en plus eux aussi très surprenants. Voilà, le regard est très proche, très tendre. Et bon, c'est pas entre les murs, hein. C'est pas entre les murs, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre regard. Après, il y a Stéphane Caz. Alors là, je suis très contente aussi, parce que c'est un film qui est sorti il y a Omblin 2 mois. C'est encore une fois pour moi une rencontre avec ce film. Je ne connais pas du tout Stéphane Caz. J'ai cherché à le rencontrer, donc il a accepté de venir. Et là, c'est encore un autre sujet qui peut être un sujet de société, mais ce n'est pas du tout traité d'une manière documentaire. Le fond, c'est comment, quand on est une jeune femme, quand on est en prison, et on s'aperçoit qu'on est enceinte, et on sait que son gosse va être pendant 4 ans en prison. Donc on suit cette femme, ses révoltes, le milieu carcéral, voilà. C'est un film assez sérieux, bouleversant pour, je crois, tout le monde. Et j'avais très envie qu'il soit là pour en parler, parce que c'est un jeune réalisateur qui dit avoir passé beaucoup de temps, et on sent une espèce, là aussi, de proximité absolument bouleversante, quoi. Voilà.
Stéphane Caz, donc jeune cinéaste. Un autre jeune cinéaste sera à l'honneur de ce Festival international du cinéma de Gardanne à travers un coup de cœur au cinéma canadien. C'est Xavier Dolan, dont le film Lawrence Anyways avec Melville Poupeau a fait pas mal parler de lui et qui était présenté d'ailleurs à Cannes.
Mais je crois que les 3 films qu'il a fait étaient présentés à Cannes. Voilà, on parle de jeunes prodiges. Et je pense que je pourrais en parler aussi. Je trouve ça assez épatant. Un cinéma fou, fougueux. Moi, ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est un cinéma extrêmement égocentré, mais une maturité affective, une maturité de vision de la société, en tout cas des relations personnelles, qui est complètement épatant. Voilà.
Un jeune homme, d'ailleurs, qui n'était pas très content que son film soit présenté hors compétition à Cannes.
Ça rejoint l'égocentrisme, là. Oui, oui, il paraît que c'est quelqu'un... Thierry Frémaux l'avait d'ailleurs présenté ce film à Cannes en disant... Ouf, on va le passer, je vais arrêter de m'appeler, quoi. Il n'en pouvait plus, il était à fond sur lui tout le temps. Oui, c'est quelqu'un qui est... Ben voilà, il est comme ses films, extraverti. Oui, il voulait être en compétition, il en a assez au troisième film de ne pas être en compétition. Après, c'est autre chose, hein. C'est une autre affaire.
On retrouve des rendez-vous classiques dans cette 24e édition du Festival du cinéma à Gardanne, notamment un gros plan sur le cinéma italien.
Oui, oui, on aime bien ça. Il se trouve, on fait toutes les soirées italiennes, on a un public, on n'est pas très loin quand même, hein. Il y a comme une forme de sororité là avec l'Italie quand même. Et donc voilà, et cette année, on m'a proposé beaucoup de films. J'aurais bien aimé en présenter davantage, mais là, 61 films... fallait un moment se frustrer un peu. Et c'est vrai que cette année, c'est carrément la clôture. Mon père va me tuer. Puis j'ai vu le film Piazza Fontana sur les années de plomb en Italie. Et puis le dernier film qui avait eu le Lion d'Or à Venise, le dernier film des frères Taviani. Voilà, il y en avait plus. Je me retrouve avec 3. Mais c'est quand même toujours pour moi un moment fort de ce cinéma italien qui se sort d'une espèce de silence de pas mal d'années et qui... Plus ça va, plus je trouve plus intéressant, quoi. Voilà. Les Taviani, c'est un peu à part, hein. C'est du cinéma très traditionnel, quoi. Mais là, le sujet abordé est magnifique, hein.
Une petite programmation aussi pour le jeune public dans ce festival.
Oui, petite, ouais, quand même pas si mal que ça. On a une avant-première qui est Jean de la Lune. C'est le jeudi 1er. Sinon, avant, il y a Couleur de peau au miel, il y a Les enfants loups, Ame et Yuki, un film japonais magnifique. Et puis à partir du 31, on aura aussi Kirikou. Les hommes et les femmes, voilà. Mais les enfants peuvent voir d'autres films avec leurs parents. C'est pas si simple, il faut être un peu plus grand, quoi, souvent. Voilà, mais ils ne sont pas oubliés. Il y a beaucoup de séances pour eux et une avant-première, je tiens beaucoup à le dire.
Une soirée Bollywood aussi ?
Voilà, là, ça devient compliqué, là. Là, c'est la pression, c'est la demande, c'est le rituel. Il se trouve qu'il n'y a plus de sortie de films Bollywood en France depuis 4-5 ans. Donc, tous les 35 mm, ça c'est très technique, n'ont pas été numérisés. Donc, on n'a plus qu'à reprendre des films anciens. Et chaque année, je dis que peut-être ce sera la dernière année. En revanche, ça n'a rien à voir, mais on a deux films indiens. On a un film indien quand même. Gang of Wasseypur, qui est une espèce de saga folle, mi-Bollywood, mi-film de gangster, complètement folle. Et ils sont sortis aussi à Cannes, voilà. Donc la première partie est déjà sortie en juillet. La deuxième partie est en avant-première chez nous. Elle sortira en décembre ou janvier. Voilà, donc l'Inde est représentée par un peu autre chose. Et comment un jeune réalisateur a digéré Bollywood, le cinéma traditionnel indien. Et ça donne une fresque complètement folle. Voilà, qui dure 2 épisodes, 2h40 quand même.
Le film de clôture, donc, tu en as parlé tout à l'heure, cinéma italien, Mon père va me tuer. Donc là, c'est la 24e édition en 2012, la 25e va avoir lieu en 2013. Régine, qu'est-ce que prépare le Festival cinématographique d'Automne de Gardanne pour 2013 ?
Ce qui va se faire, en tout cas, c'est que donc, le festival est labellisé. Il y aura sûrement un échange, en tout cas... dans ce cadre-là, purement de ce label, avec un responsable d'un autre festival de cinéma de la Méditerranée. Et peut-être, mais ça ne nous changera pas beaucoup, puisqu'on l'a toujours beaucoup fait, un point encore plus important sur le cinéma méditerranéen.
C'est une émission spéciale consacrée à la 24e édition du Festival cinématographique d'Automne de Gardanne, un festival qui se déroule du 26 octobre au 6 novembre 2012 au cinéma 3 Casinos de Gardanne. On se retrouve avec le cinéaste canadien Xavier Dolan à propos de son film Lawrence Anyways avec Melville Poupeau après la pause musicale. Au cinéma canadien cette année au Festival de Gardanne à travers la projection des trois films de Xavier Dolan, acteur et cinéaste de 23 ans, J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires et le dernier, Lawrence Anyways avec Melville Poupeau, qui comme les deux précédents a été sélectionné à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Un film situé dans les années 90, dans lequel un professeur de littérature, mal dans sa peau d'homme, décide d'apparaître à soi comme à tous en tant que femme. Xavier Dolan est interviewé par le site touscoprod.com.
Anyways, pour moi, c'est la traduction c'est d'une manière ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, de toutes les manières possibles imaginables. Anyways, both ways. Ça fait référence au masculin, au féminin. C'est Laurence de toutes les manières possibles. C'est une histoire d'amour. C'est pas seulement un film sur la transsexualité. Il y a peu ou pas de références transsexuelles. C'est un film que la communauté transsexuelle peut apprécier parce que je pense qu'elle raconte l'histoire d'un homme qui veut devenir une femme, tout ça. Mais pour moi, la transsexualité, c'était l'expression, si tu veux, dans notre société aujourd'hui de la différence ultime. C'est un peu le dernier tabou. La transsexualité, c'est complètement dissociable de la sexualité. C'est une question de sexe, c'est pas une question de sexualité. Les gens ont, je pense, un préjugé. Ben, c'est pas un préjugé parce que c'est pas forcément. c'est pas péjoratif, mais les gens pensent qu'un transsexuel est homosexuel. C'est faux. C'est complètement aléatoire. Un transsexuel homosexuel, c'est le fruit du hasard. C'est l'effet du hasard. C'est pas un film communautaire, hein. C'est pas un film. Je veux pas non plus avoir l'air d'une personne opportuniste, mais j'ai choisi la transsexualité parce que je voulais exprimer ultimement la différence, la manière dont la société porte un regard sur toutes les minorités, la façon dont elle ostracise les gens encore aujourd'hui. Ça peut être un transsexuel, ça peut être un homosexuel, ça peut être un invalide, ça peut être une personne plus âgée, ça peut être racial, ça peut être... On s'en fout, c'est juste une manière pour moi, c'était un véhicule pour moi pour exprimer une théorie, si on veut, bien que le film soit pas théorique, c'est plutôt émotif, sur les gens différents en général. De 87 à 99. Parce que, d'abord, j'aime cette période, parce que c'est la période de mon enfance. Moi, je suis né en 89. C'est une période... je suis une personne très mélancolique, très, très nostalgique. J'aime ce qui se passe dans cette... j'aime ce qui se passe dans cette période-là. Et pour moi, en fait, je pense que c'était aussi l'occasion d'exprimer le fait que la technologie, la médecine, il y a plusieurs choses qui évoluent. Mais le regard qu'on porte par rapport à certaines personnes dans la société puis la manière dont on les juge n'évolue pas à la même vitesse. Mais les années 80-90, pour moi, c'était d'exprimer le fait que le progrès n'est pas si fulgurant, en fait, puis que, qu'à cette époque ou qu'aujourd'hui, les enjeux restent potentiellement les mêmes. Ouais. Pour moi, la musique, c'est un personnage dans le film. C'est tellement important aussi. C'est la manière dont on communique avec le spectateur, la façon dont, tu sais, quand on marche dans la rue, quand on écoute une chanson, on se projette dans des scénarios, dans des. C'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est pas juste un truc qui peut jouer à la radio dans un film où il y a une époque où c'était purement circonstanciel. On entendait une musique qui joue à la radio ou une musique qui joue dans un café. Ou, mais dans le film, il y a des chansons qui jouent à la radio ou dans les cafés, mais aussi sur le film. Il y a beaucoup de musique dans le film. Beaucoup. Les gens, je sais que les gens vont critiquer, les gens vont dire. Mais pour moi, c'est ce que moi j'aime. La musique fait partie de ma vie, donc elle fait partie de mes films. C'est normal. Quand on essaie de faire des films, j'imagine qu'on essaie de faire une représentation plus ou moins juste de notre réalité, de notre vie. Donc c'est juste normal pour moi que la musique soit omniprésente. J'ai pas une grande culture en cinéma, en fait. J'ai 23 ans, j'ai eu une enfance avec des films très commerciaux, très populaires, puis Dieu merci, parce que je pense que c'est très important d'avoir une connaissance de la culture populaire. Je suis attaché à cette culture-là, c'est même presque un réflexe pour moi. Et puis après, j'ai commencé à voir du cinéma plus sophistiqué, plus très très tard dans ma vie. Il y a énormément de films cultes, de films qu'il faut avoir vus, que j'ai honte de ne pas avoir vus. Mais tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis que j'ai 17 ans, en fait, c'est écrire des scénarios, puis après les tourner. Donc, je n'ai pas nécessairement eu le temps de voir beaucoup de films. Dans Lawrence Anyways, par exemple, il y a une référence très, très marquée à Marlon Brando, en fait, dans un film de Kazan. Puis il y a une autre référence à un autre film, je ne vais pas vous la dire tout de suite. C'est une référence très populaire. C'est un film quand j'étais jeune, qui m'a marqué en fait. C'est mon appel au cinéma, mon appel à la narration d'une histoire, la manière dont on construit un scénario. Mon premier coup de foudre en amour aussi. La première fois que je suis tombé amoureux de quelqu'un. Melville a quand même fait une soixantaine de films, ce qui est énorme. Et puis, à ce stade d'une carrière, c'est plus compliqué d'effectuer des transactions au quotidien d'avoir un dialogue avec un comédien. Il est plus inaccessé, plus nébuleux, plus vaporeux, si tu veux, c'est difficile. Puis avec Melville, c'était tellement simple, tellement agréable de lui expliquer aussi. C'est quelqu'un qui ne boude pas son plaisir, c'est quelqu'un qui est capable d'enthousiasme aussi par rapport à un scénario, par rapport à un rôle. Il comprend qu'il peut aller plus loin, il a hâte de le faire, il a hâte de le... Et pour moi, ça, c'était un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Tourner avec Nathalie Baye, c'était un bonheur inouï. Une personne extrêmement à l'écoute, pas du tout chiante, pas du tout tiquée par des manières d'actrice ou des extravagances que la hiérarchie des plateaux aurait pu lui procurer au fil du temps. Une personne complètement qui a les deux pieds sur terre, qui est drôle premièrement, qui fait une lecture sensible du texte. Qui n'est pas envahissante aussi, c'est un rêve de pouvoir... Ça a vraiment été formidable de travailler avec Nathalie. Elle est vraiment... Mais c'était aussi, d'un point de vue égo, ça a été excitant puis enthousiasmant pour moi de me dire que j'allais pouvoir diriger Nathalie Baye, en fait. Puis on a construit un personnage dont je suis extrêmement fier. C'est le personnage secondaire le plus fort du film. D'abord par sa présence, parce qu'elle a les scènes les plus, je pense, parmi les scènes les plus intenses du film. Mais aussi... Parce que c'est vraiment le seul personnage qui, à travers la transformation de Melville, à travers la transformation de son fils, se transforme elle-même. Ça s'inscrit un peu dans une sorte de trilogie inconsciente, peut-être. C'est-à-dire que « J'ai tué ma mère », c'est un film sur l'amour impossible entre un fils et sa mère à l'adolescence. Après, si on veut, Les Amours imaginaires, c'est L'amour impossible jeune. Puis Laurence Anyway, c'est L'amour impossible adulte.
Alors, quel est votre nom complet?
Laurence Emmanuel James Alia. Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que tuture encule ta tave. C'est trop.
Félicitations, Laurence.
Non, mais c'est un petit prix.
Vous boirez à notre santé ce soir en allant chercher ça.
Surprise! Surprise!
Santé, Sherry!
Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis.
Je comprends pas.
Je veux être une femme.
Tu vas être heureux comme ça? Ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous!
Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui.
Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme.
J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas.
On va faire ça ensemble.
C'était Xavier Dolan. Son film Laurence Anyways sera projeté à Gardanne le mercredi 30 octobre à 14h. Autre film à propos de différence dans ce festival de Gardanne, Hasta la Vista de Geoffrey Indoven sera également présenté dans le cadre de cette 24e édition. Un film sorti en mars 2012 dont l'avant-première à Marseille avait été l'occasion d'une rencontre avec le réalisateur. Une interview de Sabrina Gomez pour La Grenouille.
Sorti le 7 mars dans les salles françaises, Hasta la Vista de Geoffrey Indoven s'attarde sur le parcours de trois jeunes hommes. Sous le prétexte d'une route des vins, ils embarquent pour un voyage vers l'Espagne dans l'espoir d'y perdre leur pucelage. Rien ne les arrêtera, pas même leur handicap. Geoffrey Indoven, réalisateur.
C'est le producteur Mariano Van Hoof. Il a vu le reportage à la BBC qui s'appelle For One Night Only. C'est l'histoire d'Asta Philpott qui a fait le voyage à partir de l'Angleterre, la prostitution est illégale, vers l'Espagne avec deux copains et ses parents. Il m'a raconté de ce reportage, je trouvais ça tellement rigolo, mais j'étais aussi ému à la fois et je lui ai dit, tu te rends compte, c'est un film. À partir de là, il a pris contact avec Hasta Philpott. Il a dit, on est intéressé dans ton histoire, veux-tu collaborer? Puis Mariano a écrit le traitement, comme il voyait l'histoire, inspiré sur le reportage, mais différent naturellement. Hasta Philpott lui-même, la vie fait vraiment la gueule envers lui. Il a tout contre et quand même, c'est un personnage très positif et très heureux. Et j'avais envie de partager ça avec le public. Et aussi, c'est une belle histoire d'amitié où le voyage est plus important que la destination. C'est le message qui passe pour moi, c'est que tout est possible et ce n'est jamais trop tard.
Inévitablement, on part d'un fait concret, vrai, et on se base sur des choses et des détails tout à fait réalistes.
Isabelle de Hertoek, actrice.
Et puis Asta, comme disait Geoffrey, était présent. Donc il y avait vraiment une interaction quand ils ont fait le scénario et puis après sur le tournage. Donc il y avait vraiment une présence d'Asta Philpott très importante. Mais il ne nous a pas guidés au niveau du jeu d'acteur. Il ne fallait pas faire un cliché. Il fallait aller chercher notre propre handicap pour aller vraiment vers le jeu sincère et ne pas simplement symboliser qu'est-ce que c'est une personne handicapée. Il fallait aller chercher ce que nous, comment nous, on ressentait, notre propre handicap, pour essayer de comprendre, si on peut essayer de comprendre quelque chose par rapport à une situation qu'on ne connaît pas. Et on peut passer à un propos plus difficile et moins accessible dans l'humour, justement. Donc, ça qui est intéressant, aller dans la fiction, les ruptures de rythme par rapport à l'humour amènent à une réflexion et à un relâchement du public qui permet de peut-être un peu creuser plus cette émotion-là. En se glissant quelques instants, le public, dans la peau quelque part de trois personnes moins valides, eh bien, on se rend compte que tout le monde est concerné par ce propos-là et que c'est universel. Et donc l'émotion concerne tout en chacun. Et c'est pour ça que le public qu'on rencontre est chaque fois très ému parce que simplement, ils se sentent concernés. Tout le monde se sent concerné.
Et ils ne veulent pas que le voyage s'arrête.
Oui, ça c'est souvent.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, dans ce film ?
Mais quand j'ai lu le scénario, je l'ai reçu vraiment assez tard. Donc je me suis retrouvée 15 jours avant le tournage avec le scénario en main. Et je l'ai lu de A à Z en une heure de temps. Et j'ai vraiment pleuré, ri. Donc exactement le même résultat que quand on voit le film. La première fois que je l'ai vu, j'ai tourné le film, j'ai ri et pleuré tout le temps. Et cette rupture de rythme, cette finesse dans le scénario, dans l'évolution du personnage de Claude, cette relation entre les personnages, m'a tellement bouleversée par rapport à beaucoup de choses que je me suis dit, c'est pas possible, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau tombé du ciel, il faut vraiment aller au bout de cette aventure. Cette évolution, c'est jouissif hein, pour une comédienne de commencer d'être enlaidie, d'être dans une noirceur, d'être dans l'observation uniquement, travailler dans l'observation, c'est très intéressant. Et puis de progressivement évoluer vers la lumière et aller vers une communication qui n'existait plus. C'est vraiment riche, c'est très riche à faire.
C'est Claude?
Yeah, c'est Claude.
Ben, c'est vrai. Que maintenant, il a un nouveau contrat, mais vrai.
Et il suit.
J'ai vertrocken.
J'ai merveilleux.
Oh, fuck.
Papé flamands.
Pas de flamands.
Rémenian.
Vous quoi pour le bec, hebben?
Hé, foot, t'es un os.
Vous l'avez quoi pour le bec, hebben?
Au voyage.
Au voyage. La la la
la la la. C'est d'ailleurs le coffre de la mienne camera deal.
Non, mais ja, direct.
Du warst hier aan mijn nek, hè?
Misschien hebben ze een Alciaal ook man, hè?
Hallo.
Jij en Lars komen bij mij op de eerste plaats.
Filip, je pakjes.
Hi, Martijn.
Godverdomme, hè? Wat kunnen wij dan nu aan doen?
Ik promise.
Tournee generaal. Seks voor iedereen.
Alain Comoli, président d'Andiver Horizon. Association qui organisera en juin prochain le festival Horizon Décalé, 3 jours pour promouvoir des artistes autrement valides ou des œuvres ayant un rapport avec le handicap.
On va programmer le film Hasta la Vista qui va servir de point de départ pour faire un débat sur handicap et sexualité. Donc au cours de ce débat, il va y avoir par exemple Françoise Vatré qui est à l'origine en Suisse de la formation des aidants sexuels en Suisse. Ils sont un petit peu en avance sur nous, les Français. On n'est pas des gens asexués. Et effectivement, on a une sexualité à... Voilà. Et que pour certaines personnes, lourdement handicapées, qu'elles aient un handicap mental ou physique, qui ne peuvent pas, par exemple, ne serait-ce que se masturber, qu'est-ce qu'on fait pour eux, vous voyez ? On accepte de nous aider, de nous donner à manger, de nous laver, de nous donner le minimum vital. Mais le sexe en fait partie du minimum vital et on réclame donc ce genre de service qui serait fait comme en Suisse, un petit peu sur le modèle suisse, avec des bénévoles. Il ne s'agit pas de dire, toi tu vas être aidant sexuel. Non, c'est à l'issue d'une formation et voilà, donc c'est... Et il y a des personnes qui veulent le faire, il y a des personnes handicapées qui ont besoin de ce service. Alors pourquoi ça ne se fait pas ? C'est juste une histoire de loi, de décret à faire passer, pour que ça ne rentre pas dans la catégorie proxénétisme ou prostitution. Voilà, c'est juste ça.
Vous êtes du même avis ?
Oui, tout à fait, oui. Il y a la tendresse, il y a l'affection, il y a l'amour qui est vachement important, quoi.
Yvette Boyer, présidente de l'association Choisir sa vie.
C'est vrai que le côté sexe est important, mais il y a des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas touché soit un homme, soit une femme, que c'est la première fois qu'ils voient une personne nue. Et c'est ça qu'on voudrait faire justement remonter.
Geoffrey, il a quelque part... effectivement contribuer à ouvrir un débat. Maintenant, la petite ouverture, on va dire, c'est pas encore une brèche, mais la petite ouverture est faite. On peut se faufiler dedans et aller plus loin. C'est comme un peintre hein, qui peint sa peinture, je veux dire, qui amène une idée, mais après, le public fait ça son rôle aussi.
We hadden even goed niet kunnen gaan.
met onze tegenspoed en ons gelaat naar
betrouw. Écoutez les 3-8, on écoute maintenant Jung, dessinateur de bande dessinée et co-réalisateur avec Laurent Boileau du film Couleur de peau, miel. Un film qui retrace le parcours de Jung, enfant coréen, adopté par une famille belge. Un film qui lui aussi s'interroge sur les questions liées à la différence.
Je m'appelle Jung. Je suis né quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Parce qu'un jour, au bas d'un papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption ».
Et voilà, t'es chez toi.
Film qui combine animation, film Super 8 et images de fiction. Jung répond aux questions de Philippe Tian pour le site bandedessinée.info.
Cinq enfants.
Oh, je suis désolé. J'oublie toujours ton petit asiatique.
Je fais de la bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Et depuis toutes ces années, en fait, je raconte des histoires dans lesquelles j'aborde d'une manière récurrente les mêmes thématiques qui sont liées finalement à mon histoire personnelle. Ça parle d'identité essentiellement, d'éracinement, d'abandon, de la quête de la mère maternelle. Ce qui m'a amené au dessin et à la bande dessinée, c'est l'envie de raconter des histoires. Et peut-être que j'en avais pas conscience, mais oui, voilà, il y a quelque chose en moi, quelque d'intime lié à mon histoire personnelle, qui avait envie de s'exprimer. Et voilà, donc je me suis mis au dessin parce que j'avais besoin d'extérioriser les choses. Je me suis imposé qu'une seule contrainte, c'est ne pas tomber dans le misérabilisme. Voilà. Donc c'est pour ça que la bande dessinée raconte l'histoire d'une manière un peu décalée. Hein. Il y a pas mal d'humour, d'autodérision. Parce que je pense qu'il faut en avoir par rapport à sa propre vie et surtout pour éviter de justement d'avoir quelque chose de larmoyant et voilà parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'autobiographies tombent dans le misérabilisme et en tout cas tombent dans cet écueil que je voulais éviter voilà donc la narration de la bande dessinée est en dents de scie hein, donc on passe du burlesque à des passages beaucoup plus historiques, hein, voire très émouvantes aussi. Hein. Voilà, la bande dessinée permet ça, permet le passage d'un genre à l'autre, mais surtout, elle permet aussi le double niveau de lecture.
Mais d'où est née donc cette idée d'adapter au cinéma ?
Tout simplement, l'idée vient d'Anaïs Clanet, qui travaille pour Wide, hein, qui est l'exportateur étranger du film. Voilà.
D'accord. Donc,
qui était très fan, donc c'est une dame, hein, qui est très fan, qui était très fan de la bande dessinée, qui a eu cette vision, je pense. Et donc, elle a soumis l'idée au producteur. Hein, le producteur a soumis l'idée à Laurent Boileau et Laurent Boileau a soumis l'idée. Et donc dès le départ, j'ai été associé à la réalisation, hein, à la fabrication du film. Et donc, quelque part, tous les choix artistiques du film, je les ai cautionnés puisque je co-réalise ce film.
Dans le film, en fait, on voit une combinaison, un montage alterné entre des images de prise de vue réelle et des images animées. Pourquoi avoir opté pour ce procédé ?
Alors, c'est un film hybride. Comme c'est une bande dessinée, le réflexe naturel, c'est d'utiliser l'animation. Hein. Donc, pour tout ce qui est toutes les vocations du passé, donc de mon enfance, etc., l'animation est idéale. Et donc, toute la partie en prise de vue réelle correspond en fait à mon retour en Corée.
D'accord.
Voilà. Donc, on s'est dit, non, on va pas utiliser l'animation pour évoquer mon retour, autant que ce soit de la prise de vue réelle. Hein, voilà. Une chance, je veux dire, pour le film, c'est que, et ça je pense que ça fonctionne très très bien, c'est aussi les images Super 8, hein, on a récupéré des films de famille, et voilà, donc c'est vraiment un film hybride dans lequel on mélange joyeusement un peu tous les genres, quoi, hein, parce que même dans l'animation, hein, on a de l'animation 3D, sur laquelle on a un rendu 2D, on a de l'animation traditionnelle, hein, et donc l'animation traditionnelle correspond à tous les passages oniriques, hein, du film.
Et est-ce que le rendu final correspond à ta vision du film, du moins ?
Je suis plutôt agréablement surpris du résultat, surtout au vu de tout ce, comment dire, des difficultés, tant sur le plan technique que humain.
Bien sûr.
Finalement, on arrive quand même à faire un bon film.
D'accord.
Voilà.
Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut.
Dis-moi, Coralie, pour toi, est-ce que je suis vraiment ton frère ?
Mais tu parles pas de mon frère comme ça !
Pour eux, j'étais un des leurs.
Tu me le passes ?
Pour moi, ce n'était pas toujours aussi simple.
Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais ressenti quand tu es retourné en Corée du Sud ?
Ce que j'ai ressenti, j'ai eu l'impression d'être sur un immense puzzle et que j'étais une pièce du puzzle et qu'il avait du mal à trouver sa place. Voilà. C'est vraiment. Je me suis senti comme ça là-bas. Et puis je me posais souvent la même question, et bon, c'est une séquence live du film aussi, hein, c'est savoir comment les Coréens me percevaient, les Coréens de là-bas me percevaient, moi qui suis d'origine coréenne, et qui retournais pour la première fois là-bas. Je voulais savoir s'ils me percevaient comme un vrai Coréen, ou voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'équipe technique du film. Et donc j'ai les deux avis, hein, certains qui me disaient, ben non, en fait, t'es plus coréen, déjà tu parles plus notre langue, t'as pas du tout la même mentalité, etc. Et puis d'autres qui me disaient, mais non, tu es un enfant du pays, tu es né ici, tes racines sont ici, tu es des nôtres, ouais. T'es un enfant du pays. Et bon, ça, ouais, forcément, moi ça me touche énormément, parce que quelque part c'est la réponse que j'attendais. Mais au plus profond de moi, je me dis, en fait oui, mes racines sont là-bas, mais mes racines sont ici aussi. Voilà, je suis un peu, je suis quelqu'un qui suis à l'intersection de plusieurs cultures.
D'accord.
Voilà, et ça ne me dérange pas. Ça m'a posé un problème quand j'étais plus jeune, hein, adolescent. Parce que quand on est adolescent, on a souvent tendance à se victimiser et qu'on se dit ben, c'est toujours la faute des autres, etc. Je suis abandonné, je suis l'être le plus malheureux du monde, etc. Et en fait, au fil du temps, même ça, ça m'a demandé quand même de faire un travail sur moi-même. Hein. C'est d'accepter mes mixités, quoi. Voilà.
Où est-ce que tu te sens le plus chez toi ?
En Corée, comme je suis né là-bas et que j'ai jamais vécu là-bas, quand j'y suis retourné pour la première fois, en fait, j'ai eu le sentiment d'être aussi un peu chez moi. Parce que tout simplement, il suffisait que j'observais les Coréens et pour la première fois, je me disais, mais tiens, on se ressemble. Voilà, parce qu'il y a des différences au niveau morphologique, hein, je veux dire, entre les Coréens, les Chinois, les Japonais. Et moi, je me retrouve en les observant. Et puis même, il y a certains aspects au niveau de mon caractère que j'ai retrouvé chez les Coréens aussi.
Pour finir, quels sont tes prochains projets ?
Il y a donc Couleur de Pommier, tome 3. Hein. Mon éditeur l'attend puisque j'ai dû arrêter la bande dessinée pour travailler sur ce film. C'est quand même 4 ans que je suis sur le film. Il y a Kyoteru, hein, qui est une histoire de ninja aux éditions Delcourt. Le premier volume est sorti. Je pense qu'il y a des gens qui attendent la suite, donc il faut que je fasse le tome 2. Et puis un nouveau projet de long métrage que je suis en train d'écrire.
Si C'était Jung, co-réalisateur du film Couleur de peau, miel, un film qui sera projeté à Gardanne le samedi 27 octobre à 12h30 et le lundi 29 octobre à 12h30. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale consacrée à la 24e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, un festival qui se déroule du 26 octobre au 6 novembre 2012 au cinéma 3 Casinos de Gardanne. Sur les 3-8, des chroniques quotidiennes sur le festival à 9h45 du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre. Toutes les émissions sont ou seront en écoute sur le site radiogrenouille.com. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt sur les 3-8.